La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Une revue de presse asiatique ce matin qui commence sur un îlot du golfe du Bengale.
Nous sommes donc au Bangladesh. Nous lisons le Dhaka Tribune et nous y apprenons que le gouvernement bangladais va démarrer dès le mois prochain un projet qui pouvait paraître fou il y a quelques mois quand il a été évoqué pour la première fois, mais qui est devenu terriblement concret et effrayant. Sur l'île de Bashan Shar, à plus de 2 heures de bateau du port le plus proche, les autorités de Dhaka veulent reloger dès le début du mois de novembre jusqu'à 100 000 réfugiés Rohingyas. Ces musulmans qui ont fui leur région de Birmanie il y a 2 ans pour échapper à un génocide qui ne disait pas son nom vont être réinstallés, donc plus ou moins volontairement, dans des baraquements construits serré à la va-vite sur une île ou plutôt un îlot de vase apparu il y a à peine 20 ans. The Dhaka Tribune, relayant la communication officielle, nous explique qu'il fallait trouver une solution pour réduire la surpopulation, la situation sanitaire impossible dans les camps où s'entassent actuellement les Rohingyas, faute de pouvoir rentrer chez eux en Birmanie. The Independent, autre quotidien bangladais, nous explique que la situation est devenue intenable, que le Bangladesh, où la densité de population est déjà très élevée, ne peut pas gérer plus longtemps ce million de réfugiés, que les riverains des camps actuels sont de plus en plus hostiles envers les Rohingyas et envers leur gouvernement. Il fallait donc trouver d'urgence une solution. Alors, on a cru la tenir, cette solution, avec Bashar Shan, île terre vierge et fertile. On a commencé dès le printemps dernier à y construire à la chaîne des bâtiments tous identiques avec une pièce de 14 mètres carrés par famille et cuisine et sanitaire en commun. Tout cela ressemble plus à un univers concentrationnaire qu'à une ville nouvelle avec autour de la terre sableuse, la forêt et puis la mer, au-delà plus rien.
Et puis il y a le principal problème de cette île qui est exposée à tous les risques naturels, Camille.
Oui, à commencer par les risques d'inondation à la période des pluies, risques de destruction aussi causés par les cyclones qui ne sont pas rares et qui sont très violents dans le golfe du Bengale. Je ne vous parle même pas de la montée des eaux liée au réchauffement climatique puisque l'île de Bashan Shar est un banc de sable sans aucun relief. Ces inquiétudes que l'on trouve évoquées dans The Dhaka Tribune, dans la bouche de la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les droits humains, Yang Yi Li, elle s'est rendue, elle, sur l'île et elle n'est toujours pas convaincue au retour que Bashan Shar soit réellement habitable. Les autorités bangladaises répondent par voie de presse qu'elles ont pensé à tout, que les baraquements sont construits sur pilotis, que des digues ont été créées tout autour de l'île, que chaque unité de logement est équipée d'un abri anticyclone. Eh bien, ça ressemble plus à un aveu qu'à un luxe de précaution. Al Jazeera, Asie très préoccupée par le sort de la minorité musulmane Rohingya, semble également sceptique sur cette information officielle selon laquelle 7000 réfugiés auraient déjà donné leur accord pour ce déménagement. Il faut voir les conditions de vie dans les camps actuels, ajoute la chaîne Qatari. Tout est fait pour compliquer la vie des Rohingyas, les pousser ou bien à rentrer dans leur région de Birmanie malgré les dangers toujours bien réels, ou bien à accepter d'être naufragés volontaires donc sur Bashan Shar. Le mois dernier, de sévères restrictions ont été imposées dans les camps, surpeuplés de Cox Bazar, réseau téléphonique brouillé, portable confisqué. On cherche particulièrement à isoler les Rohingyas, à les empêcher de communiquer entre eux, appeler les services d'urgence ou tout simplement témoigner des conditions de vie infernales qui sont les leurs. Cette stratégie d'isolement, d'abandon devrait trouver sa pleine réalisation sur l'île de Bashan Shar. Les premiers convois de 500 réfugiés quotidiens devraient commencer dans 2 semaines à peine.
Et puis on continue avec la Thaïlande où le roi vient de congédier sa favorite. Vous trouvez vraiment que ça fait France Culture de parler de people comme ça?
Oui, vous allez voir, ça dit quand même pas mal de choses sur la démocratie, sur la place des femmes à la cour de Thaïlande. Nous lisons donc le Bangkok Post avec cette information qui a fait l'effet d'une bombe hier soir. Sa Majesté le roi Maha Vajiralongkorn, c'est son nom, a ordonné hier donc que soit retiré à la jeune Sinenath Wongvajirapakdi, surnommée Khoi, tous les titres honorifiques et militaires qu'il lui avait lui-même fait décerner il y a à peine 2 mois. Car le bon roi avait pris tout le monde de court au mois d'août en relançant une pratique qui n'avait plus cours justement en Thaïlande. Depuis un bon demi-siècle, il avait donné un statut officiel de consort, de favorite, disons, à cette ancienne pilote et garde du corps de l'armée thaïlandaise âgée de 34 ans. Ce même roi venait pourtant de se marier 2 mois plus tôt avec la reine Suthida, 41 ans, elle-même ancienne hôtesse de l'air mais épouse officielle du souverain. La polygamie, donc, remise au goût du jour en 2019. Même les Thaïlandais avaient eu du mal à y croire, nous dit le Straits Times de Singapour. Des Thaïlandais qui commençaient à peine à s'habituer à voir la jeune Khoi mise en scène en photo style paparazzi dans la presse people ou bien en tenue traditionnelle assise au pied du trône de son royal concubin pour la photo officielle, quand la reine Sutida, elle, avait le droit de poser sur son propre trône au même niveau que son époux. Et c'est apparemment ce décalage, cette rivalité au sein de ce qu'il faut bien appeler un harem qui a causé la perte de la favorite. La Gazette royale d'hier, citée par la BBC, nous explique que la jeune femme a été bannie pour avoir eu une attitude déloyale, pour avoir attenté aux traditions en intriguant pour essayer de faire de l'ombre à la reine. Je laisse là ces intrigues d'alcôve pour conclure avec Andrew McGregor Marshall du Southeast Asia Globe sur ce que ça nous dit de la conception du pouvoir chez le roi Vajir à longue corne. Dans un pays, la Thaïlande, où la monarchie est sans cesse contestée depuis un siècle, les rois la jouaient plutôt discrète, profil bas, malgré leur fortune estimée à 60 milliards de dollars. L'actuel souverain, arrivé sur le trône en 2017, veut lui restaurer le faste et l'opulence abandonnés par ses prédécesseurs et il ne s'embarrasse pas de modernité, de constitution ou encore de démocratie. Il s'arroge le droit quasiment de vie et de mort sur une jeune femme pour mettre en scène son propre pouvoir. Alors celle-ci en a fait les frais, déshonorée aussi vite qu'elle avait été portée au nu. Andrew McGregor Marshall conclut, lui, que tout cela n'est pas rassurant pour la soi-disant démocratie thaïlandaise aux mains de la junte militaire.
Merci beaucoup Camille Magnard.